Chapitre 7. Épigraphe. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Le corps de Laurine était étendu, froid et rigide, dans la demeure des Page. C'était dimanche, et par la fenêtre grande ouverte, la brise matinale répandait sur elle le parfum des fleurs qui s'ouvraient dans les bois, les prés et dans les jardins de l'avenue. Les cloches des églises sonnaient à toute volée, et les passants qui se rendaient à leur appel tournaient des regards curieux vers la grande maison où reposait la victime de la bagarre dont l'histoire courait déjà la ville. Dans la première église, Henry Maxwell, le visage encore altéré par les émotions de la veille, se trouvait en face d'une immense congrégation et lui parlait avec une passion et une force qui découlaient si naturellement des profondeurs de son cœur que ses auditeurs éprouvaient en l'entendant un peu de cet orgueil que leur causait autrefois sa dramatique éloquence. Son attitude pourtant n'était plus la même. Il y avait dans son appel vibrant une note de tristesse et de reproche qui atteignit la conscience de beaucoup de membres de l'Église et les fit pâlir soit de remords, soit d'indignation. Car Raymond, après tout, s'était éveillé le matin pour apprendre que les partisans du désordre et de l'alcool avaient eu la victoire. Le bruit qui courait la veille au rectangle était faux. La majorité, il est vrai, était minime, mais le résultat restait le même. Les tavernes et les cabarets de Raymond continueraient à jouir pendant une année encore d'une liberté illimitée. Et cet échec était imputable aux chrétiens de Raymond, car une centaine d'entre eux s'étaient abstenus de voter et un beaucoup plus grand nombre avait voté avec les partisans de l'ancien état de choses. Si tous les habitants de Raymond, qui faisaient profession de christianisme en se rattachant à une église, avaient marché contre l'ennemi, l'alcool, au lieu de trôner en roi de la ville, aurait été forcé de baisser la tête et de cesser son œuvre de dégradation et d'abrutissement. Mais il n'avait pas marché. Pendant un an encore, son règne serait incontesté et de pauvres créatures sans nombre seraient dégradées, avilies, tuées peut-être comme Laurine. Tout cela, Henry Maxwell le disait à son troupeau avec une voix que l'angoisse faisait trembler, et en l'entendant, plus d'une femme, plus d'un homme même, sentait les larmes lui monter aux yeux. On aurait pu en voir couler sur le beau visage de Donald Marsh, qui oubliait de les essuyer, lui qui jusqu'alors n'avait jamais manifesté en public une émotion quelconque. Ceux qui avaient coutume de voir chaque dimanche à la même place cet homme très droit, irréprochable dans son maintien, l'air légèrement hautain, le reconnaissait à peine dans l'homme affaissé dont la tête altière se penchait sous le poids d'une préoccupation trop douloureuse pour être dissimulée. Edward Norman était assis à côté de lui, pâle, les lèvres serrées, la main crispée sur le rebord du banc qui lui faisait vis-à-vis. Personne n'avait travaillé plus que lui à éclairer l'opinion. Personne ne s'était jeté plus résolument que lui dans la mêlée pendant la semaine qui venait de s'écouler. Mais la pensée que la conscience chrétienne avait été secouée trop tard ou trop faiblement pesait lourdement sur son cœur, car qui pouvait dire ce qui serait arrivé si, depuis longtemps déjà, il avait fait ce qu'aurait fait Jésus. Plus haut, sur la galerie, Rachel Winslow, la tête cachée dans ses mains, sentait l'émotion à laquelle elle cherchait vainement à résister, la gagnait tellement que lorsqu'elle voulut, à la fin du service, chanter le solo qui devait le terminer, sa voix s'éteignit dans un sanglot. Jamais on n'avait répandu tant de larmes dans la première église. Où donc était resté son respect de l'ordre, de la convention, de la solennité du service, que jamais aucune émotion vulgaire, aucune excitation plébéienne ne devait troubler? C'est que les convictions les plus intimes de tous ces gens avaient été remuées. Ils avaient si longtemps vécu de sentiments de surface qu'ils en étaient arrivés à oublier les sources profondes où se puise la vie et que rien d'autre qu'une crise comme celle qu'ils venaient de traverser ne pouvait leur rappeler la signification véritable de leur vocation de chrétien. Henry Maxwell ne demanda pas cette fois si de nouveaux volontaires consentiraient à s'engager à suivre l'exemple de Jésus en agissant ainsi qu'il l'aurait fait lui-même, mais il n'en trouva pas moins la petite troupe de disciples plus nombreuse que jamais quand il la rejoignit à l'issue du service. Ce qui dominait chez tous était la résolution fermement et courageusement affirmée de continuer ou d'entreprendre la lutte contre le mal sous toutes ses formes, mais surtout contre l'alcool, et ne déposer les armes que lorsqu'une vie meilleure régnerait dans cette cité terrestre dont il se sentait responsable devant Dieu. Les prières se succédaient, confessant les fautes, l'égoïsme et l'indifférence du passé, et de tous les cœurs des supplications muettes montaient vers le ciel, demandant la délivrance des abus qui étaient devenus pour tant d'âmes une cause de malédiction et de mort. Si les élections et leurs conséquences avaient singulièrement troublé la première Église, le rectangle ne s'en montrait pas moins fortement préoccupé. La mort de Laurine ne lui paraissait pas en elle-même un fait particulièrement digne de remarque, mais ses relations récentes avec le beau monde de la ville lui communiquaient une importance spéciale et l'entouraient d'un certain prestige. Des rapports exagérés au sujet de la magnificence du cercueil avaient déjà fourni ample matière au commérage. Mais la question des funérailles passionnait le rectangle. Serait-elle publique? Qu'allait décider Miss Page? Jamais la populace du quartier n'avait encore été mise en rapport, si lointain fût-il, avec l'aristocratie du boulevard, car les occasions où ces deux faces de l'humanité pouvaient se rencontrer n'abondaient guère. On assiégeait M. Gray pour savoir de quelle façon les amis et les connaissances de Laurine pourraient être admis à lui rendre les derniers devoirs, car ses amis, après tout, avaient été nombreux, et il s'en trouvait beaucoup parmi les nouveaux convertis. C'est ainsi qu'il advint que le lundi après-midi, le service funéraire de Laurine eut lieu dans la tente, devant un immense auditoire qui débordait sur la place. M. Gray s'était rendu auprès de Virginia, et après avoir discuté la chose avec elle et M. Maxwell, il avait obtenu que la cérémonie eût lieu au rectangle. « J'ai toujours été opposé aux grands ensevelissements, » disait l'évangéliste, dont la parfaite simplicité constituait une des principales forces. Mais la requête des humbles créatures qui connaissaient Laurine est si pressante que je ne sais comment m'opposer à leur désir de la revoir et d'entourer d'un peu d'honneur son pauvre corps. Qu'en pensez-vous, monsieur Maxwell ? Je me laisserai guider par vous dans cette affaire, certain que ce que vous déciderez, vous et Miss Page, sera ce qui vaudra le mieux. « Je pense comme vous, » répondit M. Maxwell. « En thèse générale, je déteste tout ce qui ressemble à de l'ostentation dans des moments comme celui-là. Mais ceci est différent. Le peuple du rectangle ne viendrait pas ici pour le service. Ainsi, je pense que ce serait agir chrétiennement que de décider qu'il aura lieu dans la tente. » « Qu'en pensez-vous, Virginia ?»« Oui, vous avez raison, » dit tristement Virginia. « Pauvre fille, elle a donné sa vie pour moi, et bien que nous ne puissions ni ne voulions profiter de cela pour faire une vulgaire démonstration, il ne me semble pas que je puisse refuser à ses amis la satisfaction qu'ils réclament, d'autant plus que je n'y vois aucun mal. » Les arrangements furent donc pris, non sans quelques difficultés, pour que le service mortuaire se fît dans la tente de M. Gray. Virginia s'y rendit avec son oncle et Rollin. M. Maxwell, Rachel, le président Marsh et le quatuor de la première église les accompagnaient, et tous ensemble, ils assistèrent à une des scènes les plus étranges de leur vie. Le correspondant d'un des plus grands journaux du pays se trouvait justement à Raymond ce jour-là. Il entendit parler de son enterrement original à plus d'un titre et eut la curiosité d'y assister. Le lendemain, il envoyait à son journal un pittoresque compte rendu qui fut remarqué par beaucoup de lecteurs et qui méritait d'être conservé par ceux qui s'intéressaient à l'histoire intime de Raymond. Je viens d'assister à un service funéraire bien unique et curieux, qui a eu lieu cet après-midi dans la tente dressée par un évangéliste, le révérend John Gray, dans le quartier malfamé, connu comme le Rectangle. La femme que l'on enterrait, d'une façon si inusitée, avait été tuée pendant une bagarre qui a eu lieu samedi soir, à l'occasion des élections. Il paraît qu'elle s'était convertie dernièrement pendant une des réunions de l'évangéliste, et elle a été tuée comme elle sortait de la tente avec d'autres convertis et quelques amis. Elle n'était qu'une vulgaire buveuse, et cependant jamais je n'ai entendu dans aucune cathédrale de service funèbre plus impressionnant, même alors que le défunt occupait de son vivant la situation la plus en vue. J'ai été dès l'abord très frappé d'entendre, dans un endroit pareil, un fort beau chant exécuté par un cœur remarquablement bien exercé et tel qu'on ne s'attend à en trouver que dans de grandes églises ou des salles de concert. Mais le cœur a été bien surpassé par un solo chanté par une jeune dame d'une beauté frappante, une Miss Winslow, qui est, si je ne me trompe, la cantatrice que Crandall avait désiré engager pour l'Opéra National et qui refusa, pour je ne sais quelle raison, de paraître sur la scène. Elle a une manière de chanter absolument merveilleuse. Elle n'avait pas fait entendre 10 notes que tout le monde pleurait. Cela n'aurait eu, après tout, rien de bien étrange, puisque nous étions à un enterrement. Mais entre 1000 voix, on n'en trouverait peut-être pas 2 comme celle-là. On me dit que Miss Winslow chante à la première église et qu'elle pourrait, si elle s'en souciait, gagner n'importe quelle somme comme cantatrice de profession. On entendra probablement bientôt parler d'elle. Une voix pareille se ferait applaudir où que ce soit. Le service lui-même, indépendamment de la musique, était fort particulier. L'évangéliste, un personnage à l'aspect tout simple, a dit quelques mots, puis un homme à l'air distingué, le révérend Henry Maxwell de la première église, lui a succédé. Monsieur Maxwell a parlé du fait que cette femme était tout à fait préparée à mourir, puis il a insisté d'une manière très impressive sur les effets que produit la boisson dans les vies des hommes et des femmes qui s'y adonnent, comme l'avait fait celle-ci avant sa conversion. Son discours, malgré son caractère agressif à l'endroit de l'alcool, ne semblait point être déplacé dans ses funérailles. Ce qui a suivi a été peut-être la partie la plus frappante et étrange de tout le service. Les femmes qui se trouvaient dans la tente, du moins la plus grande partie d'entre elles, se sont mises à chanter, groupées près du cercueil, très doucement et à travers leurs larmes. « J'étais une brebis perdue ». Et tout en chantant, elles défilaient, les unes après les autres, devant le cercueil, sur lequel chacune d'elles laissait tomber une fleur, après quoi elles retournaient reprendre leur place dans le chœur. C'était une des choses les plus simples et pourtant les plus émouvantes que j'ai vues, et pendant tout ce temps, la mélodie continuait à s'égrener, lente, douce et monotone, comme le bruit d'une petite pluie de printemps. Les chanteuses étaient bien une centaine, et je ne saurais décrire l'effet saisissant de ces voix un peu voilées et pourtant distinctes. Les côtés de la toile étaient relevés. Au dehors, on voyait une foule énorme, extraordinairement attentive, solennelle et recueillie, si l'on songe dans quelle espèce de monde elle était recrutée. Miss Winslow a chanté encore. Ils étaient 99. Puis l'évangéliste a terminé par une prière que cette énorme assemblée d'hommes et de femmes, appartenant à l'écume de la ville, a écouté main jointe et tête baissée. L'obligation où j'étais de ne pas manquer mon train ne m'a pas permis d'assister à la fin de la cérémonie, mais j'ai pu apercevoir encore de loin la foule formée en cortège suivant le cercueil porté par 6 femmes. Depuis longtemps, je n'avais pas contemplé un tableau pareil dans notre peu poétique république. Si l'ensevelissement de Laurine avait impressionné ainsi un simple étranger, il est facile de se représenter ce qu'éprouvaient ceux qui avaient été si intimement liés à sa vie et à sa mort. Jamais le rectangle n'avait été aussi profondément ému qu'à la vue de Laurine couchée dans son cercueil, et le Saint-Esprit semblait avoir communiqué une forme spéciale à ce corps sans vie, car ce même soir, bien des âmes perdues, des femmes pour la plupart, rentrèrent dans le bercail du bon berger. L'espoir exprimé par M. Maxwell au sujet de la taverne d'où était partie la pierre qui avait tué Laurine sembla être à un moment donné bien près de se réaliser. L'autorité la fit fermer, ostensiblement, durant 2 jours, et le tenancier, soupçonné d'avoir commis ce meurtre, fut emprisonné. Mais rien de précis n'ayant pu être prouvé contre lui ni contre personne, il fut rendu à son établissement, qui rouvrit aussitôt ses portes au flot de sa clientèle habituelle. Personne dans toute la ville ne souffrit de la mort de la pauvre fille aussi vivement que Virginia. Il lui semblait avoir fait une perte personnelle. La courte semaine que Laurine avait passée sous son toit avait ouvert son cœur à une vie nouvelle. Elle en parlait à Rachel, assise près d'elle, dans le grand hall de la maison Page, le lendemain des funérailles. Je vais employer une partie de mon argent à aider ces femmes à mener une vie meilleure, disait-elle. Je crois que mon plan est bon. J'en ai causé longuement avec Roline, qui est tout à fait d'accord avec moi et qui consacrera également à cette œuvre une forte somme. Combien d'argent pouvez-vous employer à cette nouvelle entreprise ? Lui demanda Rachel. Jamais autrefois, elle ne lui aurait adressé une question pareille, mais il lui semblait maintenant aussi naturel de parler d'argent que de n'importe quelle autre chose appartenant à Dieu. J'ai à ma disposition immédiate au moins 450 000 $. Roline en a davantage, bien qu'il ait, et c'est maintenant un amer regret pour lui, jeté follement par les fenêtres près de la moitié de la fortune que papa lui avait laissée. Nous désirons tous les deux réparer autant que possible nos omissions et nos fautes passées, et nous avons examiné avec beaucoup de soin et de sérieux la question de l'usage que Jésus ferait de l'argent que nous mettons à sa disposition. Je suis certaine d'avoir agi selon son esprit, en consacrant une partie à soutenir le journal de Raymond. Il est aussi nécessaire que nous possédions un organe quotidien chrétien, à ce moment surtout où nous avons à combattre l'influence des débits d'eau de vie, qu'il l'est pour nous d'avoir des églises ou des lycées. Je suis donc persuadé que la somme que j'ai mise à la disposition de M. Norman, et dont je sais qu'il en fera un usage excellent, sera un puissant moyen d'agir à Raymond comme le ferait Jésus. Pour ce qui est de mon autre projet, je désire, Rachel, que vous me prêtiez votre concours dans l'œuvre que je prépare. Nous allons acheter, Roline et moi, un vaste terrain au centre même du rectangle. Celui que la tante occupe actuellement est depuis des années en litige. Aussitôt que le tribunal aura statué sur les droits réels des propriétaires, nous en ferons l'acquisition. Depuis quelque temps, je me renseigne sur ce qui a été fait ailleurs pour créer des logements, des asiles, des restaurants au cœur des grandes cités industrielles. Je n'ai pas encore adopté un plan complet. Je sais seulement qu'avec de l'argent, il sera possible de venir au secours de beaucoup de familles, d'ouvrières et de pauvres filles comme Laurine. Mais ne croyez pas que je veuille me contenter d'être simplement dans cette œuvre une bailleuse de fonds. Que Dieu me préserve d'une chose pareille. Je veux me consacrer moi-même à la solution de ce problème si compliqué, le relèvement des bas-fonds de la société. Mais je sens, Rachel, que les ressources pécuniaires, même les plus illimitées, et les sacrifices personnels, même les plus complets, ne parviendront jamais que d'une façon partielle à assainir le rectangle, matériellement et moralement, tant que l'alcool y règnera en maître. L'eau de vie causera plus de ruines que tous les bâtiments et tous les efforts de la mission intérieure ne pourront en relever. Virginia s'arrêta et se mit à faire les 100 pas dans le hall, comme pour calmer son agitation, tandis que Rachel s'écriait « C'est vrai, mais pourtant, quelle splendide somme de bonheur votre argent va produire. La question de l'alcool ne peut pas, d'ailleurs, rester toujours ce qu'elle est en ce moment. Le jour viendra où les chrétiens de notre ville triompheront. » Virginia s'arrêta devant Rachel et son pâle visage s'éclaira. « Je le crois aussi, » dit-elle. « Le nombre de ceux qui ont promis de faire ce que Jésus ferait va croissant. » Qu'il y ait un jour 500 disciples décidés à Raymond et la cause des débitants d'eau de vie est perdue. Mais je voudrais vous parler maintenant, ma chère, de la part que je désire vous voir prendre dans la conquête du rectangle, car mon ambition ne va pas à moins que cela. Votre voix est une puissance, vous le savez, et voilà mon idée. Organisez une école de musique pour les jeunes filles de la classe ouvrière. Faites-les bénéficier de votre talent et de votre éducation. Il y a de splendides voix parmi elles. Aviez-vous jamais entendu quelque chose de comparable à leur chant, hier ? Rachel, quelle occasion unique de travailler. Vous aurez tout ce que l'argent peut procurer en fait d'orgues et d'instruments divers. La musique n'est-elle pas un des plus puissants moyens d'amener les âmes à une vie meilleure, plus élevée et plus pure ? Avant même que Virginia eût fini de parler, Rachel semblait transfigurée. L'émotion et la joie qui lui étreignait le cœur était si forte qu'elle ne pouvait retenir ses larmes. C'était la réalisation d'un rêve, c'était l'emploi de toutes ses facultés mis à sa portée, et dans son enthousiasme, elle jeta ses deux bras autour du cou de Virginia en disant « Oh oui, je serais heureuse de mettre ma vie au service d'une œuvre comme celle-là. Je crois que c'est ce que ferait Jésus. Virginia, quel miracle ne pourrions-nous pas accomplir au sein de l'humanité ?» Si nous possédions, pour soulever le monde, un levier aussi puissant que l'argent, consacré à Dieu sans réserve. Ajoutez-y de l'enthousiasme consacré comme le vôtre, et il est certain qu'il ferait de grandes choses, dit Virginia en souriant. Avant que Rachel eût pu répondre, Rollin parut sur le seuil de la bibliothèque. Il hésitait à s'avancer quand Virginia l'appela pour lui poser quelques questions relatives à leur projet. Il prit une chaise et vint s'asseoir à côté des deux jeunes filles, puis tous trois se mirent à discuter ensemble leur plan d'avenir. Il semblait en présence de Virginia n'éprouver aucun embarras à se trouver près de Rachel. Seulement, il y avait dans sa façon de lui adresser la parole une politesse non pas précisément froide, mais cérémonieuse. Le passé semblait avoir été entièrement absorbé par sa merveilleuse conversion. Il ne l'avait pas oublié, mais le but nouveau donné à sa vie dominait apparemment chez lui toute autre préoccupation. Au bout d'un moment, quelqu'un vint l'appeler et Rachel et Virginia se mirent à causer de choses et d'autres. « À propos, qu'est devenu Jasper Chase ?» demanda Virginia. Elle avait posé cette question le plus innocemment du monde, mais elle sourit en voyant Rachel rougir. « Je pense qu'il écrit un nouveau roman, » continua-t-elle. « Va-t-il vous y faire figurer de nouveau ? Vous savez que je l'ai toujours soupçonné de vous avoir peinte dans l'héroïne de sa première histoire. » « Virginia, » dit Rachel avec la franchise qui avait toujours régné entre les deux amies, « Jasper m'a dit dernièrement que, au fait, il m'a demandé de l'épouser, ou il l'aurait fait si... » Elle s'arrêta, les mains jointes sur ses genoux, des larmes plein les yeux. « Virginia, je croyais il y a encore de cela peu de temps, l'aimer comme il dit qu'il m'aime, mais quand il a parlé, quelque chose dans mon cœur s'est soulevé contre lui, et je lui ai répondu comme je sentais que je devais le faire. Je lui ai dit non. Je ne l'ai pas revu dès lors. C'était le soir des premières conversions au rectangle. « J'en suis heureuse pour vous, » dit tranquillement Virginia. « Pourquoi ?» demanda Rachel un peu surprise. « Parce que je n'ai jamais pu aimer beaucoup Jasper Chase. Il est trop froid et je ne voudrais pas le juger, mais je me suis toujours défiée de sa sincérité. » depuis qu'il a pris l'engagement à l'église avec nous tous. » Rachel la regardait d'un air pensif. « Je suis certaine de ne lui avoir jamais donné mon cœur. Il m'intéressait, et j'admirais beaucoup son habileté comme écrivain. Il fut un temps où je m'imaginais tenir beaucoup à lui. Aussi, je crois que s'il m'avait parlé à tout autre moment, je me serais aisément persuadée que je l'aimais. Maintenant, je ne le pourrais plus. » De nouveau, Rachel s'arrêta, et Virginia se pencha vers elle pour l'embrasser tendrement. Après avoir vu partir son amie, Virginia reprit sa place favorite dans le hall et se mit à songer à la confidence qu'elle venait de recevoir. Elle était certaine que Rachel avait eu encore autre chose à lui dire. Elle l'avait senti à sa manière d'être, mais la pensée qu'elle lui cachait autre chose ne la blessait pas. Elle comprenait seulement qu'elle ne lui avait pas dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Bientôt, Rollin rentra et le frère et la sœur se mirent à arpenter le long vestibule en se donnant le bras. Tout naturellement, Virginia dirigea la conversation sur Rachel et la part qu'elle allait prendre dans l'œuvre à laquelle il comptait mettre la main, sitôt les terrains nécessaires achetés au rectangle. « Connaîtriez-vous une autre personne douée d'une pareille puissance musicale, capable de consacrer toute sa vie au peuple comme Rachel va le faire ?» Elle va se mettre à donner des leçons de chant en ville pour gagner de l'argent, puis elle fera bénéficier les gens du rectangle de sa voix et de sa culture musicale. « C'est certainement un bel exemple de renoncement à soi-même, » dit Rollin d'un ton bref. Virginia leva sur lui un regard interrogateur. « Mais ne trouvez-vous pas cet exemple tout à fait extraordinaire ? Pouvez-vous imaginer celui-ci ou celle-là, elle nommait une demi-douzaine d'artistes de renom, faisant quelque chose de pareil ?» « Non, certainement. Pas plus que je ne puis me représenter, miss. Il parlait de la demoiselle au parasol rouge qui avait voulu aller au rectangle, faisant ce que vous faites, Virginia. Et pas plus que je ne vois tel ou tel de vos amis parlant aux membres de son club, comme vous, Rollin. » Ils allèrent en silence jusqu'au bout du vestibule, puis Virginia reprit. « Pour en revenir à Rachel, pourquoi la traitez-vous avec cette politesse formelle ? « Semblez-vous toujours vouloir la tenir à distance, Rollin ? Je crois, pardonnez-moi, si je vous blesse, je crois que cela lui est pénible. Vous étiez en si bons termes autrefois. Je crois que Rachel est peinée du changement survenu dans vos rapports. » Rollin dégagea brusquement son bras de celui de Virginia et fit quelques pas, seul. Il semblait très agité. Enfin, il revint vers sa sœur, les mains croisées derrière son dos, et lui dit d'une voix sourde « Vous n'avez donc pas deviné mon secret, Virginia ?» Elle le regardait d'un air confondu, mais il voyait bien son trouble, qu'elle le comprenait. « Je n'ai jamais aimé que Rachel Winslow, » continua-t-il avec plus de calme. « Le jour où elle était ici et où vous avez parlé de son refus de se joindre à la tournée de concert, je lui ai demandé d'être ma femme, là-bas, dans l'avenue. Elle m'a refusé, et je savais d'avance qu'elle le ferait. Elle m'a donné pour raison le fait que je n'avais pas de but dans la vie, ce qui n'était que trop vrai. Maintenant que j'en ai un, que je suis devenu un homme nouveau, ne comprenez-vous pas, Virginia, combien il m'est impossible de lui dire quoi que ce soit ? Je dois ma conversion au chant de Rachel, et pourtant je puis dire en toute sincérité que ce certain soir, sa voix ne m'apparaissait que comme le message de Dieu. Je ne songeais plus à mon amour pour elle. L'amour de mon Dieu et de mon Sauveur effaçait tout le reste. » Après un moment de silence, Rollin ajouta avec émotion « Je l'aime toujours, Virginia, mais je ne crois pas qu'elle puisse m'aimer jamais. » « Je n'en suis pas si sûr, » disait Virginia. Elle regardait son frère, dont la belle figure avait perdu presque toute trace de dissipation. Ses lèvres fermes trahissaient une âme courageuse, le regard de ses yeux clairs était franc et limpide. Rollin était un homme, maintenant, et elle se demandait pourquoi Rachel n'apprendrait pas à l'aimer avec le temps. Ne semblait-il pas fait l'un pour l'autre, à présent surtout qu'ils puisaient tous deux à la même source de vie ? Elle lui dit quelque chose de tout cela, mais sans parvenir à lui redonner grand espoir, et quand il la quitta, elle garda de leur entretien l'impression qu'il se proposait de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée parmi les désœuvrés du monde, des clubs à la mode, et que sans éviter positivement Rachel, il ne ferait rien pour se rapprocher d'elle. Il se sentait trop sûr de pouvoir se dominer, et Virginia comprit que l'idée même d'un second refus, au cas où il se laisserait entraîner à lui parler de son amour, lui était inexprimablement pénible. Le jour suivant, elle se rendit dans les bureaux du journal de Raymond pour voir Edward Norman et prendre les dernières mesures relatives à la mise de fonds à laquelle elle s'était engagée. Henry Maxwell était présent à cette conférence où les deux parties contractantes affirmèrent encore une fois devant lui leur volonté de se laisser diriger jusque dans les moindres détails par cette règle unique « Que ferait Jésus ?» « J'ai tracé ici un programme qui me semble répondre à notre règle, » dit Edward Norman en déployant une grande feuille de papier qui rappela à Henry Maxwell celle sur laquelle Milton Wright et lui avaient essayé de transcrire, chacun de leur côté d'une manière concise et frappante, les différents articles du Code nouveau auxquels ils voulaient obéir. « Que ferait Jésus à la place d'Edward Norman, rédacteur du journal de Raymond ?» 1. Il ne tolérerait jamais dans son journal une phrase ou une illustration qui pût en aucune façon encourir le reproche de grossièreté ou d'immoralité. 2. Il ne s'inquiéterait que du bien du peuple au lieu de songer à l'avantage de telle ou telle partie. En d'autres termes, il considérerait tous les sujets politiques au point de vue de l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Edward Norman leva les yeux de dessus la feuille qu'il lisait. « Vous comprenez, dit-il, que c'est là mon appréciation personnelle de la manière dont Jésus traiterait les questions politiques dans un journal. Je ne passe point condamnation sur les journalistes dont la vie différerait du mien. Je ne me préoccupe que de savoir ce que ferait Jésus s'il était Edward Norman, et vous venez d'entendre de quelle façon je comprends ce que j'ai à faire. » 3. Le but d'un journal quotidien, rédigé par Jésus, serait de faire la volonté de Dieu et non pas de gagner de l'argent, ou d'acquérir une influence politique. Sa règle première, sa préoccupation dominante, serait de faire comprendre à tous ses lecteurs que la chose importante entre toutes, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce serait pour lui une chose aussi entendue que pour un pasteur, un missionnaire ou n'importe quel ouvrier enrôlé au service désintéressé d'une œuvre chrétienne quelconque. 4. Toute annonce d'un genre douteux serait mise de côté sans hésitation. 5. Les relations de Jésus avec ses employés seraient empreintes d'une cordialité et d'une bienveillance parfaites. « J'en suis arrivé, en effet, » dit Norman en s'interrompant de nouveau, « à la conviction que Jésus introduirait dans ses bureaux une forme pratique de coopération afin d'intéresser d'une façon effective tous ceux qui travaillent ensemble à un but commun. Je m'occupe de trouver le moyen de réaliser cette idée et je crois pouvoir y réussir. En tous les cas, une fois l'élément d'une affection personnelle introduit dans une affaire comme celle-ci, enlevez-en la préoccupation égoïste d'un accroissement continuel des gains au profit d'un seul ou d'une société, et je ne sais pas ce qui empêcherait encore des relations étroites de camaraderie de s'établir entre rédacteurs, reporters, imprimeurs, tous ceux en un mot qui sont liés d'une façon quelconque à la vie du journal. L'intérêt de tous à la réussite commune ne devrait pas se borner, bien entendu, à être sympathique, mais se traduire par une participation aux bénéfices. 6. Comme rédacteur d'un journal quotidien à l'heure présente, Jésus ferait une large part aux œuvres chrétiennes. Il consacrerait des pages aux questions de réforme, aux problèmes sociologiques, à l'activité laïque dans les églises et autres choses de ce genre. 7. Il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour combattre l'alcoolisme par le moyen de son journal et pour le dénoncer comme un ennemi de l'humanité. Il montrerait que l'utilité des boissons alcooliques dans notre civilisation actuelle est absolument contestable, et il le ferait sans s'inquiéter de l'opinion publique à ce sujet ni des déficits que cette attitude risquerait de produire dans le chiffre de ses abonnés. 8. Jésus ne publierait pas d'édition du dimanche. 9. Il publierait toutes les nouvelles qu'il jugerait de nature à être communiquées au public. Au nombre des choses qu'il n'a pas besoin de connaître figureraient les exhibitions brutales, les fêtes grossières, les longs comptes rendus des crimes, les scandales concernant des familles privées ou tout autre événement directement opposé au premier point traité dans ce programme, l'accroissement du royaume de Dieu. 10. Si Jésus avait à son service, pour l'employer à son journal, la somme que j'ai à ma disposition, il s'assurerait probablement la collaboration des meilleurs écrivains chrétiens des deux sexes dont il aurait connaissance. Ce sera un de mes premiers soins, vous aurez bientôt l'occasion de vous en convaincre. » Edward Norman avait terminé sa lecture, mais il restait pensif. « Tout ceci n'est qu'une simple esquisse, dit-il enfin. J'ai une foule d'idées sur la manière de donner une réelle puissance au journal, mais je n'ai pu encore les développer et les fixer. J'ai causé de tout cela avec plusieurs autres journalistes. Plusieurs d'entre eux sont d'avis que j'aurais une feuille de chou, sans valeur ni saveur, une publication d'école du dimanche, à la patte de Guimauve. Si je réussis à produire quelque chose d'aussi bon qu'une école du dimanche, cela n'ira déjà pas si mal. Pourquoi donc les gens, quand ils veulent caractériser quelque chose de particulièrement faible, empruntent-ils toujours leur comparaison à l'école du dimanche ? Quand il devrait savoir que les écoles du dimanche sont une des institutions dont l'influence est aujourd'hui la plus forte et la plus puissante dans notre pays. Mon journal ne sera pas nécessairement fade, parce qu'il sera bon. Les choses bonnes ont plus de force que les mauvaises. La question principale pour moi est celle de l'appui que nous donneront les chrétiens de Raymond. La ville compte plus de 20 000 personnes qui sont membres d'une église. Si la moitié d'entre elles nous soutiennent, notre existence est assurée. Pensez-vous, Maxwell, que nous puissions y compter ? Je ne suis pas assez au courant des dispositions de tout ce monde pour me prononcer. Tout ce que je sais, c'est que je crois de tout mon cœur en votre journal. S'il peut vivre un an, comme le disait Miss Virginia, on ne saurait prédire tout le bien qu'il pourra faire. La grande chose sera d'arriver à produire un journal aussi semblable que possible à celui que Jésus publierait. Et pour cela, il faut y faire entrer tous les éléments d'un christianisme vivant, fort, intelligent et pratique, et s'imposer au respect de tous par une absence totale de bigoterie, de fanatisme, d'étroitesse, de tout ce qui est opposé à l'esprit de Jésus. Un journal pareil fera appel à ce que la pensée et l'action chrétienne produisent de meilleur. Ce serait simplement taxer les plus grands esprits du monde à la plus haute cote possible que de leur confier la publication d'un journal chrétien idéal. « Oui, dit humblement Edward Norman, mais je sais que je ferai pour ce qui me concerne de grandes bévues. J'ai un immense besoin de sagesse, mais j'ai besoin aussi de faire ce que ferait Jésus. Je continuerai à me poser cette question chaque jour, et pour le reste, je compterai sur son secours. » Je crois que nous commençons à comprendre la signification de ce commandement « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ », dit Virginia. Je suis sûr que je ne comprendrai ce qu'il ferait dans les détails de la vie qu'à mesure que je le connaîtrai mieux. C'est bien vrai, remarqua M. Maxwell. Je commence aussi à comprendre que je ne serai capable d'interpréter les intentions de Jésus que lorsque je saurai mieux ce qu'est son esprit. À mon avis, cette question « Que ferait Jésus ?» est la question suprême de toute vie humaine, à condition que la réponse en soit basée sur une connaissance intime de Jésus lui-même, car il faut le connaître pour pouvoir l'imiter. Quand les derniers arrangements eurent été pris entre Virginia et Edward Norman, celui-ci se trouvait en possession de 500 000 dollars dont il était libre de disposer de façon qu'il jugerait la plus profitable à l'extension et au développement du journal. Dès qu'il se retrouva seul, il ferma sa porte et demanda à Dieu son secours avec la simplicité d'un enfant. Et tandis qu'il priait, agenouillé devant son pupitre, il entendit retentir à ses oreilles cette promesse « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et sans reproche, et elle le lui sera donnée. » Sa prière devait être exaucée, et le royaume de Dieu avancé par le moyen de cette presse toute puissante, qui devrait être toujours un instrument dans la main de Dieu, mais que l'avarice et l'ambition des hommes ont souvent abaissé et dégradé. 2 mois passèrent ainsi, 2 mois remplis pour les chrétiens de Raymond, et surtout pour ceux de la première église, d'événements féconds en résultats bénis. Malgré l'approche des fortes chaleurs de l'été, tous ceux qui avaient pris l'engagement de suivre l'exemple donné par Jésus continuèrent à se réunir avec beaucoup d'enthousiasme chaque dimanche. M. Gray avait terminé son œuvre. Un observateur superficiel traversant le rectangle et n'eut pas remarqué le moindre changement extérieur, bien qu'il s'en fût produit un dans des centaines de vies. Mais les cabarets, les tavernes, les bouges, les maisons de jeu battaient toujours leur plein et empoisonnaient de leur venin les vies de nouvelles victimes prêtes à prendre la place de celles que l'évangéliste avait arrachées, de sorte que les rangs de l'armée du mal se reformaient rapidement. M. Maxwell ne prit pas de vacances. Au lieu de cela, il employa l'argent mis de côté pour un voyage à payer un séjour au bord de la mer à toute une famille habitant le rectangle qui n'avait jamais quitté les hautes maisons enfermées dans ce triste quartier. Jamais le pasteur de la première église ne devait oublier les journées qu'il passa avec cette famille à cette occasion. Il se rendit au rectangle, un jour où la chaleur était déjà étouffante, afin de chercher ses protégés et de les conduire à la gare, puis il les accompagna jusqu'au joli village côtier, où il les installa dans la maisonnette d'une brave chrétienne où, pour la première fois de leur vie, ils purent respirer l'air vivifiant et salé de la mer et entendre murmurer dans les pins plantés le long de la plage une brise qui semblait leur infuser une vie nouvelle. Ils étaient 6, le père, la mère, un bébé malade et 3 autres enfants, dont un infirme. Le père, qui avait manqué d'ouvrage si longtemps qu'il avait été plusieurs fois, il le confessa plus tard à M. Maxwell, sur le point de se suicider, garda pendant tout le temps du voyage son bébé serré dans ses bras, et quand le pasteur les quitta pour retourner à Raymond, cet homme lui serra les mains et le remercia avec une telle explosion de reconnaissance qu'il en éprouva une confusion presque pénible. La mère, une pauvre créature harassée et à bout de force qui avait perdu 3 enfants l'année précédente pendant une épidémie qui ravageait le rectangle, ne pouvait rassasier ses yeux du spectacle que lui offrait la mer, les prés et le grand ciel bleu. Tout cela lui semblait un miracle. Quand Henry Maxwell se retrouva dans la ville, qui lui semblait plus chaude et poussiéreuse après son échappée sur les bords de l'océan, il remercia Dieu pour la joie dont il venait d'être témoin et reprit humblement sa tâche. C'était la première fois qu'il apprenait à connaître ce genre de sacrifice, car jamais jusqu'alors il ne s'était refusé un séjour d'été, loin des chaleurs de Raymond, qu'il eût ou non besoin de repos. « Le fait est, répondait-il aux questions réitérées des membres de son église, que je n'éprouve aucun désir de prendre des vacances cet été. » Il éprouva un vrai soulagement de ce qu'il parvint à cacher à chacun, sa femme exceptée, l'histoire de la famille qui prenait des vacances à sa place. Il sentait le besoin de faire le bien sans ostentation et sans être récompensé par l'approbation des autres. Ainsi l'été passait et la première église était toujours tenue en éveil par la puissance de l'esprit. M. Maxwell était émerveillé de voir le mouvement continuer si longtemps. Il comprenait depuis son début que la présence de l'Esprit de Dieu avait seule préservé l'Église d'être désagrégée par la secousse qui l'avait si profondément troublée. Maintenant encore, beaucoup de ses membres, parmi ceux qui n'avaient pas pris l'engagement, regardaient, ainsi que le faisait Madame Winslow, tout le mouvement comme une interprétation fanatique des devoirs des chrétiens, et désiraient vivement le retour à l'ancien état de choses. Tout le groupe des disciples n'en était pas moins sous l'influence du Saint-Esprit. Quant à Henry Maxwell, il poursuivait sa tâche, travaillant avec joie au sein de sa paroisse, s'occupant des ouvriers des ateliers du chemin de fer, comme il l'avait promis à Alexandre Power de le faire, et grandissant chaque jour dans la connaissance de son maître.